Question d'Islam par Ghalib Bensheikh. Aujourd'hui, je reçois le sociologue Homero Mahondio Peria. Bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de l'islam. Dans une émission telle que celle-là, il s'agit du fait islamique et vous êtes un spécialiste et un fin connaisseur du fait, de la chose, de la res islamica. Et surtout pour commenter avec vous cet ouvrage posthume du regretté Mohamed Harkoun, dont le titre est « Quand l'islam s'éveillera ». C'est une allusion faite à la Chine quand elle s'éveillera avec Alain Pierfit. Il est édité chez Albin Michel et comme vous êtes aussi un lecteur assidu des travaux de Mohamed Harkoun, j'ai pensé à vous pour nous commenter et nous faire l'exégèse de ce qui s'apparente à la fois un testament, à une sorte de relais d'un témoin pour relayer la pensée harkounienne. Merci Homero Mahondio d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes aussi dans la mouvance des néo-mu'tazilites, donc pour cette rationalité de la pensée islamique, une pensée ancrée dans la modernité, laquelle modernité, Mohamed Harkoun le dit lui-même, et vous aussi, doit être aussi soumise à une critique en règle. D'abord, vous avez lu l'ouvrage « Quand l'islam s'éveillera », vous pensez que le cauchemar actuel et la les glaciations idéologiques qui caractérisent cette tradition religieuse finissent elle par être dégelée et on se réveillera du cauchemar.
On le souhaite dans tous les cas. Cet ouvrage est extrêmement intéressant sur plusieurs plans. Tout d'abord parce qu'il se lit très bien.
On disait que la pensée de Mohamed Harkoun est difficile d'accès.
Voilà, exactement. C'est pour cela on sent qu'il y a une dimension. Je dirais presque de transmission orale, ce qui est un petit clin d'œil ici à Mohamed Harkoun qui a un style rédactionnel parfois assez ardu. Et là, on sent qu'il livre un certain nombre d'idées à travers des chapitres du livre qui sont en fait un rassemblement de communications. Son épouse a colligé un ensemble d'articles et de communications qui ont été transcrites de sa propre main. Et donc qui ont été édités par les éditions Albin Michel. C'est assez intéressant parce que Mohamed Harkoun revient sur un certain nombre de lignes de force de ses travaux, sur toute cette mythification de l'histoire, cette dette de sens à travers laquelle les musulmans sont redevables de la communauté primitive ou de leurs prophètes. Les corpus officiels clos, ce processus de canonisation des textes qui ne va plus être interrogé à travers l'histoire, mais également les conditions de renaissance, les conditions de renouveau de l'islam. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est sa réflexion sur la condition de la femme à l'époque contemporaine. À partir d'une réflexion sur l'islam, donc la condition de la femme dans l'islam, il refuse de se laisser enfermer dans des discours que je qualifierais ici de bas étage, consistant à stigmatiser à outrance que ce soit les textes de l'islam ou la religion musulmane de manière plus générale, pour poser une réflexion de fond sur la société contemporaine. Car quand on parle de renouveau de l'islam, il faut aussi interroger les cadres de référence de la société contemporaine de façon générale. Et à ce titre-là, le livre est vraiment riche en pistes et il lègue à la postérité, aux chercheurs et chercheurs de confession musulmane également, la charge d'approfondir un certain nombre de pistes sur lesquelles nous allons revenir par la suite.
Oui, l'ouvrage effectivement se présente comme une collecte. Vous avez si bien dit que sa veuve a colligé des articles, des communications dont certaines paraissent improbable, un islamologue qui vient devant des psychanalystes réunis en congrès leur parler à la fois d'ontologie, d'épistémé, il parle lui-même d'épistémologie critique moderne.
Tout à fait.
Et ce qui m'a frappé personnellement, et c'est pour cela que vous êtes là pour en répondre, c'est cette audace intellectuelle qui consiste à dire qu'on n'a pas interrogé jusqu'à présent le modèle de la révélation comme un modèle indépassable pour l'affranchissement de la condition humaine. Je parle là de la pensée islamique. Et on n'est pas dans une lecture confessante, on n'est pas dans des considérations philosophico-théologiques, on est simplement en train de dire c'est quoi un humain, c'est quoi la dignité de l'homme, qu'est-ce qui affranchit l'être humain de toutes les vicissitudes à la fois de l'histoire et de sa condition d'être humain.
Tout à fait. Ce que j'apprécie chez Mohamed Harkoun à travers ses écrits, c'est qu'il met des mots précis sur des choses qu'un chercheur de confession musulmane ressent progressivement lorsqu'il s'intéresse à l'histoire de sa propre tradition. Il dit à juste titre que dans le processus de socialisation chez les musulmans, donc quand l'enfant apprend progressivement à devenir un adulte en intégrant un certain nombre de normes, il intègre à la fois des normes de comportement, mais il intègre aussi une sorte de cosmogonie, de vision du monde. Et parmi les éléments de cette vision du monde, il y a le fait qu'on va lui apprendre à ne pas interroger un certain nombre d'éléments qui sont présentés comme des évidences. J'entends par là la révélation coranique, non pas dans le fait qu'un individu puisse s'approprier cette dimension spirituelle de la révélation coranique, mais dans le fait que le Coran étant la parole de Dieu, il est absolument indiscutable dans le recueil que nous possédons aujourd'hui en tant que livre, par exemple, ou sur les rapports de domination entre les hommes et les femmes, sur l'essentialisation des êtres, sur le rapport aux non-musulmans, etc., etc. Les exemples sont nombreux. Quand on s'intéresse en tant que chercheur à toutes ces questions, on découvre progressivement que tout cela est le produit d'une histoire. Une histoire qui va figer à un certain moment, entre le 3e et le 5e siècle de l'islam, ce qui correspond grosso modo entre le 10e et le 13e siècle de notre ère, il y a eu un processus de canonisation qui va figer les textes, et Mohamed Harkoun détricote tout cela, il déconstruit ce processus et il explique pourquoi à un certain moment tout cela devient figé. On le ressent, on ne sait pas trop parfois à quoi cela correspond, mais on voit bien qu'il y a une différence tout d'abord entre le texte coranique et l'arabe coranique, ce qu'en disent les savants ultérieurement, donc dans les siècles successifs, notamment à travers l'émergence de significations qui deviennent les significations qui font autorité, puis la rédaction d'une historiographie qui devient la grande histoire musulmane. Et ça, je pense que, à ce simple titre, la dette que nous avons cette fois-ci vis-à-vis de Mohamed Harkoun est très grande, puisqu'il a vraiment mis des mots très précis sur l'ensemble de ces processus.
Oui, à commencer par dire ce qui est étonnant, c'est que certes, toute construction idéale part d'un postulat. L'ennui dans le cadre islamique, sans essentialiser, lui parle d'une substantialisation des postulats de base qu'on n'interroge pas et qui relève dans certains cas d'un impensé, puisqu'on ne l'a pas fait et donc on n'y a pas pensé, et dans de nombreux cas d'un impensable, ce qui sous-entend qu'on, avec la meilleure volonté, on ne va même pas s'y aventurer.
Oui, et il donne un exemple qui est très illustratif. C'est la controverse qui a eu lieu entre, d'un côté, Abu Hamid al-Ghazali.
Al-Ghazal des latins.
Al-Ghazal, qui est connu à travers deux de ses ouvrages, entre autres, puisqu'il a été un auteur assez abondant. Donc le premier est Ihya ul-Muddin, que l'on peut traduire par vivification des sciences de la religion, et son autre ouvrage qui est une critique forte des philosophes, Tahafut al-Falasifa, de l'incohérence des philosophes.
Incohérence, effondrement, écroulement, réfutation, parce que le mot est très polysémique,
Tahafut. Oui, Tahafut ici dans le sens où il considère, on est déjà à une période de clôture dogmatique avec Al-Razali. Et d'un autre côté, nous avons Averroès qui vient environ un siècle plus tard et qui fait une réponse. Donc nous avions également le Fasl al-Maqal du premier et donc nous avons Faisal al-Tafriqa chez le second, donc qui fait une réponse.
Il faut traduire, hein. L'un c'est le traité décisif, le critère de discriminant.
Exactement.
Oui.
Et à travers lequel donc il répond à Al-Razali, et Mohamed Harkoun montre bien que l'un et l'autre se situent quand même dans une épistémée commune et dans une vision du monde qui a déjà été à la fois codifiée et clôturée. Ce que l'on ne retient pas souvent, c'est que Averroès lui-même est un juriste avant tout. Il est issu d'une famille qui a une grande tradition juridique, qui est proche également du pouvoir en place en Andalousie, du pouvoir almohade, qui lui-même avait renversé le pouvoir almoravide dans des conditions assez difficiles. Donc c'était un ensemble de guerres où une dynastie détrône l'autre et s'arroge également à travers des fatwas, à travers des décisions de théologiens, une certaine légitimité qui est directement issue du divin, si l'on peut dire, en tout cas chez les musulmans de tradition sunnite. Et Mohamed Harkoun montre bien ici que certes, Averroès est représentant d'une pensée philosophique qui est ouverte sur une plus grande, on va dire, pluralité, qui intègre déjà un certain nombre d'éléments de l'altérité, ce que ne font pas forcément les théologiens et a fortiori les juristes musulmans. Mais nous sommes déjà, et on le voit très bien dans le traité d'Averroès, où il pose des bases juridiques, des conditions d'acceptabilité de la réflexion philosophique, nous sommes déjà dans une forme de clôture.
Parce que, si je puis dire, la Weltanschauung, la conception du monde est déjà faite, et là on est en train de raisonner avec une rationalité religieuse. La raison religieuse, qui à ce moment-là, mais peut-on en vouloir à Averroès, n'était pas encore soumise à critique.
Oui, exactement. Et Mohamed Harkoun poursuit dans son ouvrage en faisant le parallèle, par exemple, avec Kant. L'émergence d'Immanuel Kant au XVIIIe siècle et de sa pensée critique, et notamment d'une perspective complètement renouvelée concernant la place accordée à la raison. Alors, c'est à la fois chez Kant les limites, une réflexion sur les limites de la raison, mais c'est également une raison qui est complètement affranchie de ces clôtures dogmatiques et de la raison religieuse. D'ailleurs, on retient de Kant souvent sa critique de la raison pure, sa critique de la raison pratique, mais il avait également écrit un tome consacré à la raison théologique. Ce qui est très très intéressant, puisqu'il a cette capacité d'isoler cette raison religieuse, capacité qui a échappé à la fois aux philosophes du monde musulman et surtout aux théologiens et aux juristes.
Oui, et l'exemple de Kant, et on est en plein XVIIIe siècle, est parlant parce que c'est le cas de Mohammed ibn Abdel Wahhab qui était contemporain à 21 ans près d'Emmanuel Kant. L'un, sa production intellectuelle, sa formation, sa volonté de laisser quelque chose à la postérité l'ont amené à critiquer la raison pure, et l'autre reste toujours dans ses clôtures dogmatiques et dans sa raison religieuse dévote, sous prétexte aussi de procéder à une réforme.
Oui, et cela se traduit par, encore une fois, un dispositif pratique, c'est-à-dire qu'on est face à un théologien qui va faire une alliance avec une tribu, donc c'est l'alliance, dirions-nous, dans notre langage contemporain, entre le sabre et le goupillon. Donc ici,
Le fameux traité de Najd.
le traité de Najd, donc qui scelle le pacte entre une famille ou une tribu de théologiens et une tribu qui va prendre le pouvoir politique au fur et à mesure sur l'ensemble de l'Arabie, ce qui deviendra aujourd'hui l'Arabie saoudite. Et ce dispositif pratique, entre autres aspects de ce dispositif, on peut citer le fait d'effacer l'histoire. Effacer l'histoire en détruisant les vestiges de cette histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus, voire plus du tout, en tout cas pour la Mecque et Médine, on pourrait dire qu'il n'y a plus du tout possibilité de retracer la genèse, l'émergence de l'islam, dans quel contexte. Les vestiges archéologiques sont détruits au fur et à mesure. Les missions françaises et les missions internationales qui travaillent aujourd'hui en Arabie Saoudite travaillent plutôt dans le nord, dans la région de Tabouk et au Yémen, donc dans le sud de l'Arabie, à Aden et à Sanaa, dans quelques régions de l'Arabie de l'Est, mais c'est assez périphérique par rapport au foyer originel de l'islam. Donc nous avons un texte, le Coran, et nous n'avons plus la possibilité aujourd'hui de le remettre dans son contexte historique, si ce n'est qu'en étant prisonnier de ces clôtures qui ont été mises en place au fur et à mesure de l'histoire. Et cela donc laisse libre cours à une histoire mythique au moment même où dans l'Occident chrétien émerge une pensée critique, donc dans le droit fil des Lumières, de la pensée kantienne, et également une raison, donc une pensée qui s'affranchit du prisme religieux premier. Et ça, aujourd'hui, c'est l'un quand même des nœuds gordiens, c'est l'un des problèmes qu'affronte l'islam contemporain.
Et de ce fait, on est amené à canoniser un temps inaugural. Et avec une confusion entre le moment mohammedien, le fait coranique, avec le fait islamique, qui est une longue et lente construction humaine,
Oui,
articulée dans l'histoire.
malheureusement, il y a eu également en France une période, Mohamed Harkoun s'attarde également sur ce point-là, c'est le fait que cette histoire musulmane a été entérinée par un ensemble d'orientalistes et d'islamologues qui ont repris le découpage traditionnel des grandes dates de l'islam, donc de l'histoire prophétique, le prophète à la Mecque, le prophète à Médine, donc le Coran mécois, le Coran médinois, la notion de calife bien guidée, puis l'émergence des empires. Sans prendre la nécessité de la distance critique qui sied aux chercheurs et qui doit questionner la production même de cette histoire. Donc, on voit bien que les chantiers sont énormes et Mohamed Harkoun mentionne un certain nombre d'impensés. Le premier et le plus important, certainement, c'est le non-questionnement de la notion de parole divine, la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que l'émergence de cette parole dans l'histoire des hommes? Donc, par extension, le statut même du Coran. Alors, dire cela pour certains musulmans, c'est déjà commettre un sacrilège. Et certains se posent la question, comment peut-on demeurer croyant, musulman, en remettant en question le statut du livre que nous avons aujourd'hui? Or, les théologiens du Moyen-Âge n'hésitaient pas à discuter du statut du livre. On en trouve un exemple très concret en la personne de Jalal ad-Din as-Suyuti, donc théologien du Proche-Orient qui a vécu au XVe siècle, entre le XVe et le XVIe, et qui a laissé un ouvrage intitulé Al-Itqan fi ulum al-Qur'an, que l'on peut traduire en français par la perfection dans les sciences du Coran. Il reprend, il développe, il critique un certain nombre de thèses de l'un de ses prédécesseurs qui avait un siècle plus tôt rédigé Al-Burhan fi ulum al-Qur'an, la preuve dans les sciences du Coran.
La démonstration.
Ou la démonstration. Et Soyouti dit qu'on ne peut pas faire de confusion entre le processus de la révélation, que l'on traduirait aujourd'hui dans notre langage contemporain comme étant l'expérience mystique de Muhammad. On ne peut pas confondre l'expérience mystique du prophète et le fait qu'il y a eu un texte rédigé de main humaine, puisque les sources musulmanes l'indiquent bien, avec toutes les difficultés à transcrire ce texte en langue arabe. On ne peut pas confondre les deux. Et là, nous avons déjà une piste, mais qui n'a jamais été creusée en profondeur.
Sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam, aujourd'hui l'entretien est avec Homero Marangio Peria, le sociologue des religions, le fin connaisseur de la question islamique ou du fait islamique contemporain, mais aussi un lecteur de l'œuvre de Mohamed Harkoun. Et nous parlons de cet ouvrage posthume intitulé « Quand l'islam s'éveillera ». La pensée harkounienne réside sur le fait d'interroger, en tout cas d'interpeller pourquoi ces enfermements doctrinaux font en sorte que ce qui était possible à un moment donné de l'histoire, vous avez évoqué le Soyouti, ce n'est plus possible maintenant. Et comment avez-vous compris, Homero Marangio, cette frilosité et ce manque de courage d'aller rouvrir ces corpus officiels clos, ces fameux coqs?
Alors, il faut beaucoup de pédagogie quand on discute de ces questions et il ne faut pas les aborder avec animosité.
Donc, il faut les aborder avec bienveillance.
Avec si bienveillance, exactement. Il faut avoir une attitude bienveillante parce que, alors, moi-même, j'ai pu accéder à cette pensée critique en faisant une critique de mon propre parcours, puisque m'étant converti à l'islam à l'aube de mes 18 ans, j'ai eu militer dans des associations de type islamiste durant environ 14 ans. Quand on est socialisé dans un environnement au sein duquel une doxa, donc un ensemble de dogmes, sont diffusés comme étant des dogmes intangibles, préexistant à l'histoire humaine.
Et indépassable.
Et indépassable. Donc, vous êtes dans une forme de clôture dont vous n'avez pas conscience. Donc, je me souviens dans mes jeunes années d'islam, quand parfois il nous arrivait d'écouter un ensemble de personnes, alors à la fois comme Mohamed Harkoun ou d'autres, je pense à feu regretté Abdelwahab Medeb, voire même parfois des théologiens qui venaient d'Algérie, je me souviens parfois, qui venaient dans des mosquées faire des discours avec une pensée que je qualifierais d'assez rationnelle. Nous étions choqués parce que, de notre point de vue, ils remettaient en cause des choses qui n'avaient qui était établi et par exemple un certain nombre de croyances populaires relatives au génie ou un certain nombre de rapports de domination entre les genres ou du musulman au non-musulman, etc., qui se traduit par une forme de distanciation que l'on prend vis-à-vis de la société. Quand cela a été remis en cause en disant que c'était une construction historique, nous n'avions pas les outils intellectuels pour comprendre cela. Alors moi, ce qui m'a permis d'accéder à cette pensée critique, ce sont les études de sociologie, puisque j'ai fait de l'islam mon objet d'étude. Et au fur et à mesure, j'ai pu comprendre d'où cela venait. Par contre, il y a un aspect, alors toujours avec bienveillance, mais qu'il faut critiquer fortement, et c'est ce que Mohamed Harkoun dit très bien dans l'un des chapitres de son ouvrage, Quand l'islam s'éveillera, la religion, c'est également une construction socio-historique
et souvent ethno-linguistique.
Ethno-linguistique qui légitime des pouvoirs ou qui s'affirme à travers des rapports de pouvoir. Donc il y a un certain nombre de leaders religieux qui connaissent, par exemple, ce que je viens de dire précédemment concernant Jalal ad-Din as-Suyuti et le fait qu'il ne faut pas distinguer le phénomène mystique avec Muhammad et le texte que nous avons. Il y a un certain nombre de théologiens qui le connaissent parfaitement, puisqu'ils ont fait des études où ils ont eu accès à ces textes. Par contre, ils refusent d'utiliser cela pour éduquer le musulman lambda à une pensée critique. Là, il y a bien un enjeu de pouvoir. C'est que nous avons des leaders religieux dans les communautés musulmanes qui continuent à enseigner une certaine doxa pour s'arroger le droit de dire ce qui est et ce qui n'est pas. Et au-delà de cela, puisqu'à la limite, ils ont parfaitement toute latitude pour dire ce qu'ils considèrent être le bon ou le mauvais islam, mais ce qui est plus problématique, c'est qu'ils s'arrogent le droit d'orienter la réflexion et le comportement des musulmans. Et ça a été le grand lieu de confrontation entre les chercheurs qui déconstruisent le processus historique et des théologiens qui dénigrent, se moquent, voire qui portent atteinte à l'intégrité physique parfois de personnes qui sont considérées comme étant des renégats ou des personnes qui veulent transformer ou dénaturer l'islam.
Ils agissent en gestionnaires du sacré, en gardien de l'orthodoxie et en entrepreneur de la foi, pour dire certaines appellations, oui, qui leur garantissaient leur pouvoir, sachant, ce qui est étonnant et les gens ne le savent pas, que le bras séculier, en tout cas le pouvoir politique, ne pouvait pas interférer dans le changement des rites, des questions dogmatiques, parce que ça, c'était leur champ et leur domaine exclusif.
Alors là aussi, l'histoire doit être déconstruite, puisque je pense qu'il y a certaines périodes sur lesquelles on devrait s'attarder dans le processus historique. Donc Mohamed Harkoun parle d'islam impérial. C'est-à-dire qu'il y a une période, grosso modo, dans l'histoire musulmane, on parle de la prédication de Mohammed qui s'est étalée sur à peu près 22 ans, entre 22 et 23 ans, selon les sources musulmanes.
23 années lunaires.
Mm-hmm, 23 années lunaires. Ensuite, il y a eu une période d'un peu moins de 30 ans durant lesquelles quatre personnages se sont succédés à la tête de la communauté et on a eu déjà une première institutionnalisation de la religion et du pouvoir politique également. Puis nous avons eu successivement deux grands empires, l'Empire Omeyyade qui a duré 100 ans et l'Empire Abbaside qui s'est étalé sur plusieurs siècles avec deux grandes périodes. Une première période qui va jusqu'au la fin du Xe siècle, on peut dire le début des croisades, fin du XIe, et ensuite encore deux siècles, puis l'Empire s'éteindra définitivement pour laisser la place à ce qui préfigurera l'Empire ottoman. Bon, ça c'est une partie de l'Empire musulman, puisqu'il n'y a jamais eu un seul empire. Là aussi, il faut déconstruire un imaginaire. L'islam a toujours été morcelé, éclaté, et il y a eu autant de ruptures que de continuités. Il y a une période ici, quand on parle d'islam impérial, qui est très intéressante, c'est celle de l'émergence des écrits et de la fixation des textes. Alors, il y a bien entendu la fixation du Coran, il y a parallèlement la fixation de la tradition prophétique, il y a, à côté de cela, la fixation de ce qui deviendra l'historiographie musulmane et le récit narratif, donc, de la vie du prophète, de la vie de ses compagnons et des califes bien guidés. Et c'est à partir de là que Mohamed Harkoun parle de la dette de signification. C'est qu'il y a un processus de mythification, donc une histoire qui est complètement renvoyée à quelque chose de surnaturel et qui n'est plus interrogée. Et ça, ça a des conséquences pratiques. Par exemple, aujourd'hui, dans un certain nombre de mosquées et chez la plupart des leaders religieux, quand, par exemple, on aborde l'histoire de ces fameux quatre califes, donc le premier est mort de mort naturelle, les trois autres ont été assassinés, le dernier va être concurrencé par son rival, donc Ali est concurrencé par Muawiya, le fils de Abu Sufyan. Abu Sufyan qui a été l'ennemi juré du prophète durant toute sa prédication, et la famille soufianite, si vous me concédez cette expression, prend la tête.
Le gentilé a existé dans l'histoire, oui.
Il prend la tête de l'Empire Omeyyade. Cette famille prend la tête du pouvoir politique et soumet également une partie des théologiens musulmans. Moins d'un siècle, on va dire environ une trentaine d'années après la mort du prophète. Ça, c'est quelque chose qui est absolument impossible à détricoter dans l'environnement religieux musulman, car c'est considéré quasiment comme un sacrilège, parce que c'est l'objet d'une histoire qui a été complètement mythifiée.
Et canonisée, et se fondant, alors là c'est tout le débat sur les aphorismes prophétiques, sur une maxime du prophète qui est « mes compagnons sont tels des étoiles, quiconque vous suivrait, vous serez bien guidé ». En dépit, enfin, fin de citation, mais en dépit de leurs divergences et parfois de leurs conflits véhéments.
Oui, et puis nous avons tout un ensemble de propos du type « la meilleure génération est la mienne, puis celle qui vient, puis celle qui vient ». C'est à partir de cela que la notion de compagnon donc est considérée comme compagnon. Je prends ici la version la plus diffusée. Toute personne qui a pu observer le prophète du temps de sa prophétie. Donc, un individu qui a assisté au sermon lors du pèlerinage d'adieu, donc le sermon du prophète, sera considéré de ce point de vue comme étant compagnon et sa personnalité devient sacrée. Et les propos qu'elle a pu rapporter, qu'elle aurait entendu d'autres personnes qui l'ont elle-même entendu du prophète, deviennent des propos canoniques. Ensuite, nous avons les tabi'in et les tabi'it tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont côtoyé les compagnons et ceux qui ont côtoyé les suivants, donc la troisième génération de musulmans. C'est très problématique du point de vue de l'historien ou du chercheur, car ici, cette conception va avoir une incidence concrète sur la sacralité que l'on accorde à un certain nombre de propos dont certains ont été forgés justement au moment où l'islam impérial s'affirme et a besoin d'une légitimité.
Et à ce sujet, d'aucuns disent, ceux qui font maintenant de l'analyse historico-critique, comme par hasard on s'est arrêté à cette troisième génération qui correspond effectivement à l'émergence ou à la phase ascendante du pouvoir abbasside. Parlons de ceci, Homero Mahongio, vos propres travaux, cette fois-ci, parle du paradigme hégémonique. Et donc, comment faire pour justement s'affranchir de cette vision du monde et de ce paradigme hégémonique d'un islam conquérant, situation de domination, en tout cas qui se traduit dans le droit et qui se traduit dans cette conception du monde.
Il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur cette notion d'hégémonie religieuse. Moi, j'essaye très modestement de vulgariser un certain nombre de recherches et de conduire moi-même des recherches sur deux périodes. La première est celle de la Nahda, ce fameux réveil, cette volonté de réforme de la religion musulmane. Alors, dans un contexte d'hégémonie, cette fois-ci d'hégémonie occidentale, et je prends comme point de repère 1798. C'est un repère arbitraire, hein, bien entendu.
C'est la campagne de Bonaparte.
C'est la campagne de Bonaparte en Égypte. Il vient avec une armée, mais pas uniquement. Il vient également avec des savants, des lettrés, qui rencontrent des savants et des lettrés musulmans. C'est ça qui est important ici à mentionner. C'est que cette rencontre, c'est celle de Hassan el-Attar, qui est un théologien musulman de famille marocaine, installé au Caire, et il devient le premier doyen de l'université d'El-Azhar, qui n'est pas égyptien. Et c'est un lettré, il connaît les philosophes occidentaux, il connaît la littérature occidentale, et Hassan el-Attar est littéralement subjugué, je pense que le mot n'est pas trop fort ici, par cette rencontre et par ces personnes qu'il rencontre lorsqu'une délégation de lettrés musulmans est invitée à rencontrer cette délégation qui accompagne Bonaparte. Hassan el-Attar est le personnage qui va impulser cette tradition d'études occidentales, si je puis utiliser cette expression, c'est-à-dire que à partir des années 1820, entre 1820 et 1830, jusque la fin des années 1940, vont se succéder sur le territoire français, et plus précisément en région parisienne, des générations et des générations de théologiens musulmans, de lettrés musulmans, qui connaissent parfaitement le français, puisqu'ils étudient en langue française. Ils ont un double bagage, ils ont un bagage philosophique et théologique musulman, et ils ont un bagage philosophique donc en langue française. Ils étudient à la Sorbonne, ils soutiennent des thèses, et ce mouvement va s'estomper au fur et à mesure. Donc ça, c'est une période qui couvre l'ensemble du 19e siècle. Il y a deux personnages, on peut retenir plusieurs personnages, j'en citerai deux ou trois. Le premier est Rifaat al-Tahtawi, qui conduit les premières délégations à la demande de son professeur, donc Hassan el-Attar.
Et l'approbation du Khédive.
Oui, et c'est ça qui m'amène à citer d'autres personnages. Il y a deux pays qui, pour moi, on peut citer trois pays. L'Égypte, la Tunisie, et sur le versant oriental, l'Inde, avec un penseur musulman, donc Mohammed Iqbal, qui est représentatif de cette école de pensée qui propose un renouveau de l'islam contemporain. Sur le versant plus proche oriental et occidental, nous avons l'Égypte et la Tunisie qui sont pour moi deux pays paradigmatiques, deux pays qui symbolisent ce renouveau. On a le calife d'Égypte, donc qui soutient d'un côté ce renouveau, et en Tunisie, nous avons également le bey de Tunis qui demande à l'autorité religieuse. On retient souvent la promulgation, cette fatwa de 1846 qui abolit l'esclavage. Donc c'est le bey de Tunis qui demande au Batch Mufti de promulguer cette fatwa. Mais derrière cela, il y a une vraie tradition intellectuelle. C'est-à-dire que nous sommes en face de théologiens qui ne sont pas uniquement des juristes, au sens où on l'entend aujourd'hui, mais ils sont à la fois juristes, théologiens au sens d'hommes qui réfléchissent sur le divin.
Ou les discours sur Dieu.
Donc ici, c'est une vraie réflexion sur Dieu, la nature de Dieu, le rapport de Dieu au monde, etc. Et ils ont également un vrai bagage philosophique.
Ce qui aboutira, pardon, Homero Mahondio, je vous ai interrompu, à la promulgation d'une loi fondamentale, donc la constitution de Tunisie, alors état vassal de l'Empire ottoman.
Qui prend son autonomie grâce à cela. Hein, c'est une histoire que la plupart des gens ne connaissent pas. Pourquoi ils ne la connaissent pas? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on interroge un leader religieux musulman qui est soit dans le dialogue interreligieux ou interconvictionnel, ou s'il est amené à donner un point de vue estampillé musulman sur des questions relatives à l'islam ou d'interaction entre l'islam et le monde, souvent il va prendre comme focus premier donc les textes de l'islam, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un homme de religion, donc il va parler du Coran. Et comme expérience historique de l'islam, il va prendre pour appui l'expérience historique des premiers musulmans comme étant l'archétype fondamental qui n'a jamais été dépassé. Or, l'histoire de l'islam, ce n'est pas cela. Et là, nous sommes face à un vrai problème que des chercheurs comme Mohamed Harkoun ont détricoté. Et moi, je me suis engouffré dans cette école historico, dans les pistes qui ont été ouvertes par cette école historico-critique. Et j'ai essayé de voir qu'est-ce qui s'est joué au XIXe siècle, c'est-à-dire comment est-on passé d'une perspective de transformation, qui a été très loin avec un personnage comme Mohamed Abdou, mais avec les limites du théologien qui a voulu préserver les équilibres. C'est-à-dire, je ne veux pas remettre en cause trop rapidement une doxa qui est trop fortement ancrée, et en même temps, je vois bien qu'il y a un décalage extrêmement important entre le discours, les pratiques des musulmans et l'État politique du monde musulman, et les défis de la modernité. Modernité qui est prise chez ces personnages du XIXe siècle comme un modèle aussi universel. C'est-à-dire qu'il y a certes la colonisation et l'hégémonie occidentale sur le monde, mais il y a un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs d'émancipation de l'individu qu'on doit considérer comme étant universelles et qui posent un vrai défi à la pensée musulmane de l'époque.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Homero Mahondio, sociologue des religions, fin connaisseur du fait islamique, qui a toujours œuvré pour une pensée islamique ancrée dans la modernité. Et aujourd'hui, c'est comme lecteur de l'ouvrage de Mohamed Harkoun, un ouvrage posthume intitulé « Quand l'islam s'éveillera ». Pour cette dernière partie, Homero Mahondio, vous nous avez parlé à la fois de votre propre champ d'investigation et de recherche, vous êtes intéressé à la période, à la charnière 19e, 20e siècle à propos de la Nahda, Nahda, renaissance, réveil, résurrection, mais aussi la réforme religieuse, et vous avez parlé de Mohamed Abdou. Est-ce que, ma question pour vous, est-ce que Mohamed Abdou agissait dans la raison religieuse en tant que telle, ou est-ce que c'est simplement, il ne voulait pas trop bousculer les attitudes? Donc c'est cette bienveillance dont vous nous avez parlé, et puis le fait d'y aller telle une propédeutique, petit à petit, pour ne pas effaroucher certains esprits. C'est ma question, est-ce qu'il a atteint les limites de sa propre raison, sa propre rationalité, ou est-ce que c'est une approche pédagogique?
C'est l'objet d'un débat. Puisque Mohamed Abdou a été un auteur assez prolifique et aujourd'hui nous avons à disposition l'ensemble de son œuvre. Il y a une thèse très très intéressante qui a été passée sous silence pendant de trop nombreuses années. Elle a été soutenue au début des années 90 par Mohamed Haddad, chercheur tunisien qui a développé une approche critique
du réformisme
et de l'histoire de l'islam. Et cela, c'est très, très intéressant. Alors, il faut déjà avoir à l'esprit une chose. Mohamed Abdou est mort en 1905, au moment où en France se jouait un ensemble, le dénouement d'un débat qui durait depuis plusieurs années et qui va aboutir à la promulgation de la loi de séparation. Je pense, à titre personnel, mais je vous livre ici une conviction qu'il me serait difficile d'étayer avec uniquement des arguments de recherche. On pourrait dire que c'est l'intime conviction du chercheur. Je pense que Mohamed Abdou avait cette capacité de dépassement des clôtures dogmatiques. Un certain nombre de prises de position sur l'orthopraxie religieuse.
Sa fameuse fatwa du 28 octobre 1903, sur la fatwa du Transvaal.
La fatwa du Transvaal sur le halal, par exemple, dans laquelle il dit que les dispositions relatives à l'abattage ont été édictées dans un contexte particulier et les musulmans qui se trouvent dans le monde contemporain ne sont pas prisonniers. C'est ça qui est important. Ils ne sont pas prisonniers de ces dispositions. Mais ça va au-delà de cela. C'est que Mohamed Abdou dit que aussi bien un pouvoir politique que des autorités religieuses n'ont pas pouvoir, n'ont pas autorité sur le croyant. Ça, c'est extrêmement important pour l'époque, car il ouvre une perspective de sécularisation. C'est pour cela, je pense, qu'il était parfaitement au fait de cette pensée sécularisée, et il avait cette capacité à proposer des voies qui permettaient l'émergence d'un islam sécularisé. Alors, dire cela aujourd'hui, encore une fois, pour certains leader religieux musulman, cette notion d'islam sécularisé est un sacrilège, car il considère que c'est une forme dénaturée d'islam qui empêche l'émergence d'une société musulmane. Et là, dans leur esprit, la société musulmane, c'est une société qui est guidée par une doxa, donc par un ensemble de dogmes édictés par des leaders religieux ou des théologiens et qui sont entérinés par le pouvoir politique. C'est ce modèle de société qui est remis en cause par les penseurs musulmans du XXe siècle, mais avant eux, par des théologiens du XIXe siècle. Alors moi, je suis remonté d'un cran, et c'est pour cela, aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à la période Xe-XIIIe siècle, parce que aujourd'hui, par exemple, en France, on parle de la nécessité de faire émerger une forme de doctrine religieuse qui est en lien avec le malikisme du Maghreb, donc le malikisme étant l'une des quatre écoles juridiques musulmanes, considérée comme étant l'antidote du wahhabisme. Et c'est un malikisme également qui est proche des confréries soufis. Je suis très critique par rapport à cela, Parce que quand on reprend l'histoire de l'émergence du malékisme au Maghreb, cela se fait à un moment de transition. Donc c'est la fin de l'empire omeyyade d'Occident. Hein, donc progressivement, c'est la fin de l'islam andalou. Et le Maghreb voit l'émergence de deux empires tribaux à la base, hein, l'empire almoravide et l'empire almohade, qui sont deux empires fondés par des dynasties berbères, avec un morcellement très important. Ce ne sont pas des empires vraiment unifiés, c'est un ensemble de tribus ou de familles berbères qui se partagent des aires géographiques à coup de légitimation religieuse. Et cette légitimation va asseoir une doctrine malékite qui, dans certains de ses aspects, est extrêmement intransigeante. Elle est intransigeante sur le plan théologique, puisque l'acharisme dont certains se font les chantres aujourd'hui est une doctrine qui est assise sur l'idée de la puissance divine, Qudratullah, donc la puissance de Dieu, donc un Dieu dominateur sur le monde.
Et l'acharisme, c'est du nom du maître éponyme, l'Ashari, je le dis simplement pour les auditeurs.
Oui, Abu Hassan al-Ash'ari, qui est le fondateur de cette doctrine. Alors, on ne va pas ici entrer dans tous les détails historiques.
Surtout que nous nous approchons du terme de l'émission.
Simplement pour dire que nous avons cette vision d'un Dieu qui domine le monde, donc qui légitime le fait pour les musulmans de dominer le monde également, et un malikisme qui s'est développé à coup de fatwas extrêmement coercitives à la fois vis-à-vis des musulmans et des non-musulmans. Pour rappel, pour les auditeurs, le malikisme est une école juridique qui a été créée par donc l'imam Malik, qui a vécu à Médine et qui prend pour l'un des critères permettant d'éditer ses consultations la pratique des musulmans de Médine. Donc c'est une école extrêmement rigoriste et fondée sur une forme de mimétisme également de la pratique des premiers musulmans. Là je dis, faisant attention, sous prétexte de combattre un extrémisme religieux, de ne pas légitimer une orthodoxie qui est elle-même extrêmement coercitive par certains de ses aspects. Et là, j'ai été agréablement surpris quand j'ai vu que Mohamed Harkoun avait déjà ouvert cette piste d'analyse critique. Donc il nous appartient aujourd'hui de continuer ce travail de déconstruction historique qui, je pense, sera salutaire pour les musulmans.
Homero Marangio, tout en vous remerciant, vous viendriez, si vous voulez bien, nous donner le fruit de vos recherches, surtout dans ce que vous venez de nous dire, et aussi pour nous parler davantage de l'œuvre de Mohamed Harkoun et de son appel à une raison émergente, parce qu'à la fois la modernité a à être critiquée sur certains aspects, et surtout rendre la possibilité, la vitalité à la pensée islamique pour épouser les contingences du monde et de l'homme contemporain. C'était Question d'Islam, chers amis auditeurs. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Déborah Dagobert et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.